Rappeur, chanteur et artiste indépendant, H. Callisto vit à Lausanne, en Suisse romande. Métis d'origine guinéenne et espagnole, il grandit à Cossonay, une petite commune dans le canton de Vaud, à l'ouest du pays, où il est l'un des seuls noirs de la ville. Il découvre la musique avec la radio, notamment Nostalgie, puis le rap avec MC Solar. Il apprend la flûte à bec pendant 8 ans et le chant à la chorale de son école. C'est en 2018 qu'il crée le personnage d'H. Callisto lors d'un séjour en Espagne où il a vécu pendant un an et demi. Alors que H fait référence à son prénom Sacha, Callisto désigne l'une des lunes de la planète Jupiter. Les astres et les comètes sont omniprésents dans l'univers onirique et inclassable d'H. Callisto. Tel un ovni venu d'une autre galaxie, il mélange des sonorités électro, néo-soul, rap, jazz et afro-latine. Multilingue, il écrit en français, en espagnol et en anglais, et compose, mixe et masterise lui-même ses morceaux. Si son refus de se conformer peut le desservir, dans une société qui affectionne particulièrement les étiquettes, H. Callisto se reconnaît dans le terme « queer », qui définit pour lui le fait de ne pas être dans la norme et permet d'être qui on veut. L'artiste nous parle de son processus de création, de son identité d'homme noir et queer, de l'homophobie dans le rap, de la scène artistique suisse et de son prochain projet intitulé « Projection astrale ». H. Callisto, bonjour.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, quel pronom va-t-on utiliser ?
Tu peux utiliser « il », c'est très bien pour moi.
On te présente régulièrement comme un rappeur queer. Est-ce que le terme te convient ?
Oui et non. C'est intéressant, peut-être pour le public, on dira, on peut peut-être s'identifier à cette image de rappeur queer. Après, de mon côté, c'est une case de plus, disons, un stigma, enfin, une étiquette qu'on me colle, alors qu'on ne dit pas à des rappeurs hétéros qui sont hétéros, tu vois ce que je veux dire.
Du coup, qu'est-ce qu'il faut dire ? Rappeur seulement ?
Bon, non, c'est rappeur, oui, rappeur, artiste, ce qui te fait plaisir, honnêtement.
D'où vient le nom H. Callisto ? Je me suis demandé si ça avait un lien avec la nymphe dans la mythologie grecque Callisto ou pas du tout.
J'aime bien cette histoire, effectivement, de cette nymphe pourchassée, enfin, bon, comme la plupart des nymphes, mais à vrai dire, c'est pas de là tout à fait que vient mon nom, mais plutôt d'une lune qui est en fait la lune de Jupiter, qui s'appelle Callisto, qui est une des plus grandes lunes en fait du système solaire. Et j'aime bien les étoiles en général. Et puis H, bon, ben, c'est Sacha, c'est aussi mon grand amour pour Pokémon. Voilà.
Justement, comment est né ce personnage et en quoi est-ce qu'il diffère de Sacha, Diaz, ton identité à la ville ?
Je pense être beaucoup plus relax comme personne que mon personnage, que ce nom d'artiste que j'incarne quand je monte sur scène ou dans mes projets, puisque j'aime beaucoup représenter quelque chose de classe, d'extravagant, un peu de hors du monde, on va dire. Ben voilà, j'aime beaucoup les étoiles, donc je joue un peu avec cette idée que je viens peut-être d'ailleurs, que H. Callisto vient peut-être d'ailleurs, d'une autre planète. Mais pour ce qui est de ma personne, Sacha, je suis quelqu'un de très terre à terre finalement, et du moins la plupart du temps j'essaye, et finalement de très relâché. Enfin, là, je suis sur mon canapé, je suis en mode dimanche, même si on n'est pas dimanche, et voilà, je suis quelqu'un de très casanier, enfin, un peu peut-être pas ce qu'on s'imagine quand on voit ce que je fais.
Et quand est-ce qu'il est né ce personnage ? Tu l'as créé quand et comment ?
Il est né en 2018. J'ai eu cette question dernièrement, du coup, j'ai dû y réfléchir un peu. En 2018, j'étais alors en séjour en Espagne. J'y ai vécu pendant plus d'une année et demie, parce que j'ai des origines espagnoles. Et voilà, c'était l'occasion de renouer un peu avec mes racines. C'est un peu le moment où j'ai décidé de me lancer un peu plus concrètement dans la musique, même si ça a pris du temps à démarrer et j'ai l'impression que ça démarre toujours. Parce que voilà, j'ai rencontré du monde qui faisait de la musique là-bas et j'ai donc fait mon premier son. Et il me fallait un nom d'artiste évidemment pour accompagner ça. Et c'était après une bouteille de vin, quelques joints, que l'idée voilà, m'est apparue, enfin, que j'ai réussi à mettre ce personnage sur pied, quoi.
Tu viens de le dire, tu as des origines espagnoles, mais également guinéennes. Tu es basée en Suisse, à Lausanne, et tu viens de Cossonay, c'est bien ça? Une petite commune en Suisse romande, c'est bien ça?
C'est juste,
Oui.
exactement. Je grandis là-bas, je fais ma scolarité et sinon, ça fait 2 ans que j'ai emménagé dans la grande ville qui est Lausanne, même si c'est une petite ville comparée à celle du monde. Mais pour nous en Suisse, ça fait la différence.
Dans quel milieu tu as grandi, du coup, à Cossonay?
Écoute, c'est un milieu plutôt paysan. Maintenant de moins en moins, ou du moins paysan et bourgeois, maintenant plus bourgeois que paysan peut-être. Disons, enfin voilà, je parle de la commune hein, en disant qu'elle est paysanne et bourgeoise. Moi, ce n'était pas tout à fait mon cas, ni paysan ni bourgeois. J'ai grandi avec ma mère, écoute, qui est enseignante. Donc ici en Suisse, ce n'est pas une situation qui est mauvaise du tout. Donc on a quand même pu s'établir là-bas confortablement. Mais voilà, du coup, je suis fils unique avec ma maman. Et puis voilà.
Alors, question juste pour ma curiosité personnelle, j'ai lu sur Wikipédia que les habitants de Cossonay étaient surnommés les trèmes gourdins.
Oh là là, t'as fait tes recherches. C'est vrai, c'est vrai.
Ça
Écoute.
m'a interpellée, j'ai envie de comprendre d'où venait cette expression.
Écoute, j'aimerais bien comprendre aussi, c'est un mystère, c'est un mystère. Et pourtant, c'est quelque chose qui me fait très rire et que je partage volontiers, justement, quand j'ai des anecdotes à donner. Mais je ne sais pas d'où vient ce nom-là.
Bon, il va falloir diguer davantage. J'ai lu que tu étais complètement autodidacte. Du coup, je me demandais quelle place occupait la musique dans ton éducation ou chez toi. Est-ce que c'était quelque chose qui était très présent?
Écoute, pas tant que ça. Ma mère écoute de la musique volontiers, mais c'est pas quelque chose qu'elle fait quotidiennement. Plus une grande fan de radio, je dirais. Mais j'ai simplement appris la musique à l'école, dans une école de musique, parce que j'ai fait de la flûte à bec pendant 8 ans, on va dire. C'est un
Oui.
peu C'est un peu comme ça que je suis rentré, enfin, que j'ai appris un peu de solfège, voilà, les bases, puisque je n'étais pas un grand fan de solfège non plus. Et puis bon, la flûte à bec, quand on est chanteur, rappeur, ce n'est pas très, très utile. Mais voilà, j'en faisais parce que je faisais beaucoup d'activités extrascolaires, finalement. Je faisais de la musique à côté. Et j'ai intégré la chorale de mon école, et une chose en entraînant une autre. On faisait faire des solos, des machins, puis j'ai tout de suite accroché et apprécié, en fait, apprécié faire de la musique, quoi, principalement chanter.
C'était quoi les artistes que tu écoutais quand tu étais plus petit?
Écoute, vraiment petit, je me souviens de Nostalgie dans la voiture, écouter du Claude François, du Serge Gainsbourg, du Charles Aznavour aussi énormément. Après, quand j'ai développé mes propres goûts, on va dire que j'étais très fan des grandes voix féminines, beaucoup de Amy Winehouse, de Adele, un peu ces caricatures-là, on va dire, Ella Fitzgerald, beaucoup de jazz. Et dans ce qui est plus hip-hop, j'étais un très grand fan de MC Solaar, j'ai commencé à écouter du Youssoupha. Voilà, en grandissant finalement. C'est vrai qu'à 12 ans, le hip-hop, c'était pas le dans ce milieu paysan et bourgeois, le hip-hop, c'était pas ce qu'on écoutait forcément le plus. Voilà.
Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as découvert le rap, un morceau de rap, est-ce que c'était?
Le premier morceau de rap que j'ai pu écouter, c'est une bonne question. Mais je pense que c'était du MC Solaar, à mon avis. J'ai un souvenir d'un voyage dans le sud de la France en voiture avec des amis à ma mère. Et justement, on avait Chapitre 7, qui est à mes yeux le meilleur album de MC Solar. Et, on l'a écouté. Et je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à apprécier les mots.
Et toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a amené au rap? Comment tu as décidé de te lancer ou d'intégrer en tout cas des éléments, des sonorités hip-hop ou rap dans ta musique?
Écoute, c'est bêtement mon amour pour la littérature, je crois. L'amour pour les mots et le besoin finalement d'en utiliser tout le temps beaucoup et de toujours chercher la précision dans ce que je raconte et ce que je dis. Et finalement, en écrivant des textes, c'est devenu assez clair que je ne pouvais pas tout dire dans une petite chanson pop. Et que du coup j'avais voilà enfin en plus que j'aimais le hip-hop, du coup j'avais peut-être le potentiel pour en faire moi-même pour rapper mes propres textes et je me suis lancé, mais c'est vrai que je suis pas moi-même, je doute parfois de mes qualités, enfin de mes qualités de rappeur, non, mais disons que je veux pas prendre une place qui n'est pas la mienne. Je sais que je sais faire des trucs, je sais que je peux rapper, mais je me considère pas le meilleur rappeur, enfin, loin de là, quoi. Je suis juste mes textes. Je pense que je suis un bon parolier, et je fais ce que je peux. Enfin, je fais ce que je peux. Je donne ce que j'ai à donner, quand je performe.
Est-ce qu'il t'est arrivé de mettre tes textes en musique autrement qu'à travers le rap? Ou à travers la musique d'ailleurs, ça peut être, je sais pas, une pièce de théâtre, un poème?
Oui, écoute, du poème, pas mal finalement. Ça a commencé au lycée parce que c'était les punitions de mon prof de français. Quand tu faisais pas ton taf, bam, tu te chopais une punition, ou bien si tu étais insolent ou peu importe, tu te chopais une petite punition et c'était un poème à réciter. Et puis voilà, en fait, c'était presque un plaisir pour moi. Donc, je faisais pas mes devoirs exprès, presque, on dira. Mais à l'heure actuelle, ouais, c'est plus du poème ou juste écrire pour écrire, des fois des situations qu'on a de la peine que j'ai de la peine à prendre du recul. J'aime bien mettre ça par écrit. Et le slam aussi, c'est quelque chose d'intéressant. C'est pas quelque chose que je pratique tout à fait, mais ça m'arrive un petit peu de m'amuser comme ça.
Et quel est le morceau, le premier morceau que tu as rendu public, que tu as enregistré puis publié en ligne ou sur les réseaux?
Le premier morceau. C'est pas quelque chose qui est encore trouvable. Je crois, c'était du coup 2018-2019, quelque chose comme ça. C'était une chanson qui parlait d'homophobie finalement, mais d'une manière un peu comique. Je me souviens avoir fait un clip fait maison, donc très très suggestif pour voilà, juste pour comment dire, pour mettre les machos fachos en PLS, si je peux dire. C'était un peu mon intention là derrière. Donc il y avait un truc un peu revendicateur finalement. C'est vrai que j'ai commencé à écrire mes textes principalement rap avec quelque chose de très revendicateur et très conscient, pour finalement maintenant ne plus vraiment m'en faire si je parle de quelque chose de concret ou pas. Je parle du principe que les mots parlent d'eux-mêmes et qu'on peut avoir de la profondeur dans un texte, qu'on parle de la pluie et du beau temps, ou bien qu'on parle de thèmes plus sérieux comme voilà l'homophobie, le sexisme et ce qui se passe dans le monde, quoi.
T'as dit que ce morceau, on le trouvait plus, c'est parce que tu l'as supprimé ou...
C'est parce que je l'ai supprimé, ouais. Écoute, c'était une expérience. Je vois pas la musique comme quelque chose, enfin l'art en général comme quelque chose de forcément immuable, qui va rester figé, ou bien même qui va rester là. Il y a des choses qu'on a, qui sont là, qui nous accompagnent pendant un certain temps et puis qui disparaissent par la suite. Les personnes qui ont pu apprécier cette chanson l'ont appréciée le temps qu'elle était là et puis on est passé à autre chose. H. Callisto est passé à autre chose et puis le monde aussi finalement.
Bon, en attendant, on va écouter un autre titre qui, celui-là, est toujours disponible, qui s'appelle Lola et qui est sorti à l'automne 2021.
Elle se pavane toute la journée, elle cherche une dépanne. Elle est pas nette, elle vit sur je sais pas quelle autre planète. Elle fait ses bails, elle ne s'arrête pas, non, ne finit pas dans ses pattes. Où elle t'attrape, et là c'est échec et mat. Elle te déboîte, et tu finiras à terre. Elle t'enverra en enfer, elle te mettra la misère. Bad bitch, j'en connais. Elle te déboîte, et là c'est échec et mat. Elle fera pleurer ton père, la bitch en colère. C'est pas ta faute à toi, Lola. Girls on you, elle est là. C'est pas ta faute à toi, Lola. Elle vous fait trembler de froid, elle est là. Lola fait le mur, ne respecte pas les codes. Elle a besoin d'air pur, elle file à toute allure. Elle n'a pas peur des heures d'école. Que tout ton or attente plus d'un, mais d'un revers de main, d'un regard de dédain. Lola dont les lolos sont bien souvent loués. Quelques gogos restent gaga devant ses courbes si enjouées. Mais aucun entre dans sa bulle, Lola plus libre que libellule. C'est pas ta faute à toi, Lola. C'est pas ta faute à toi, Lola. Elle vous fait tomber de froid, elle est là. On fait de toi, Lola, 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 Lola,
cette Lola dont tu parles dans ce morceau?
Lola, c'est moi. Lola, c'est des gens que je connais. Lola, c'est un peu... ça peut être n'importe qui à mes yeux tant qu'on s'y identifie, j'ai envie de te dire. C'est cette personne en marge, c'est cette personne qui a subi et qui décide de plus subir et qui se bat en fait, qu'on va considérer comme j'ai le stéréotype de la angry black woman par exemple. On dit que les femmes noires ont un caractère toujours trop virulent, enfin etc. Peut-être que Lola, c'est une femme noire virulente. Peut-être que ça ne l'est pas, mais finalement, c'est une personne à qui on colle des étiquettes. C'est une personne qui se fait malmener par la vie, mais qui décide de s'en foutre et de faire ce qu'elle a à faire.
Est-ce que tu dirais que c'est un texte ou un morceau militant?
Oui, C'est vrai qu'il y a du militantisme derrière ça, mais c'est pas l'intention, peut-être, puisque c'est une sorte de métaphore, puisque finalement, je dis pas, enfin, bon, oui, je parle de capitalisme, mais je dis pas, ah, le monde est sexiste, vous êtes vraiment terrible. Acceptez-nous comme on est, je ne revendique pas en fait qu'on nous accepte. Je dis juste ce qui est, et puis je dis juste que, bah, qu'on a le droit d'en avoir marre finalement.
Est-ce que tu sais comment la chanson a été reçue? Est-ce que tu as eu des retours de ta communauté, entre guillemets, comme on dit?
Ouais, écoute, elle a bien passé, elle a été assez appréciée. J'ai une amie DJ, par exemple, qui la met dans son set maintenant, et ça me fait trop plaisir. C'était pour moi un peu le challenge, puisque je l'ai produit moi-même et j'ai mixé. Bon, voilà, je fais ce que je peux avec le peu de connaissances que j'ai, mais c'était un peu le challenge de me dire, OK, finalement, j'ai quelque chose de concret, bien présent, et ça a été reçu... Ça a été reçu impec, quoi. Les gens ont apprécié et ça m'a fait très plaisir.
Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez onirique et cinématographique dans ta musique. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle ou si tu reconnais cette dimension-là.
Alors, onirique, c'est très intéressant puisque j'ai un futur projet que je peux évoquer rapidement puisque je travaillais même dessus avant qu'on s'appelle. Qui s'appelle Projection Astrale. Et
en effet.
Et voilà, ça, c'est bien dans le thème. Et oui, c'est vrai qu'il y a toujours un truc entre le vrai et le faux, entre ce qui existe, ce qui n'existe pas, ce qui pourrait être le rêve, finalement, que j'aime bien aborder, puisque moi, j'aborde un peu la vie comme ça, même si je t'ai dit avant que j'étais pied sur terre. J'aime beaucoup rêver, voilà, je vais conclure là-dessus. Et puis après, tu me dis onirique et cinématographique, tu me demandes ça parce que tu as beaucoup d'images qui te viennent en tête, ou bien je suis pas sûr de comprendre où tu veux en venir.
Oui, je trouve que ça convoque plein de choses différentes, en fait. Je trouve que, après ce que tu dis, le côté astrologique, je sais pas si on peut le dire comme ça, en tout cas un peu de, voilà, de l'univers presque mystique, en fait. Mm-hmm. Je trouve que ça convoque plein d'images. Ouais, enfin, il y a des films en fait qui se font facilement, je trouve, en écoutant ta musique. Je ne sais pas si toi, quand tu composes ou quand tu écris, tu es dans cette volonté-là de provoquer des images différentes, ou si c'est juste quelque chose d'un peu naturel qui ressort.
Alors, je te dirais que c'est assez naturel, parce que ce n'est pas forcément l'intention que j'ai derrière. Du moins, ce n'est pas l'intention que j'avais avec ce texte-là. Pour Lola, et c'est intéressant si tu me parles de cinéma, parce que je suis un grand fan de cinéma, je suis même dans un comité du ciné-club, enfin, je fais de la programmation, et ouais, c'est avoir des images, finalement, enfin, c'est ce que je te disais avant, les mots parlent d'eux-mêmes, on a chacun, chacune, quelque chose qui va se créer dans notre imaginaire, et qu'on va s'approprier quand on écoute une musique. Peut-être que c'est en lien avec l'instru, peut-être que c'est en lien avec le texte, peut-être que c'est juste en lien avec la vibe, et puis que quand tu te balades dans les rues grisonnantes de Paris ou de Lausanne, ben, t'as l'impression d'être à Saint-Tropez, et en fait c'est juste une chanson qui fait ça.
En tout cas, j'ai l'impression que c'est assez inclassable et que c'est un peu hors cadre, ta musique. Ça emprunte autant au rap qu'à la soul, à l'électro. Est-ce que toi, tu mets une étiquette ou une définition sur ta musique et ton univers artistique ?
C'est le débat en moi pour trouver un genre, honnêtement. Enfin, j'ai énormément de peine à savoir ce que je fais. Puisque, comme tu dis, il y a beaucoup d'inspiration un petit peu éparse. Des fois, ça a telle consonance, des fois pas, des fois, c'est autre chose. Et puis, je crois que même ma manière de rapper ou de chanter a quelque chose d'un peu dissonant et difficile finalement à intégrer à la musique actuelle. Si je faisais du jazz, bon, ben, pas de souci, tu vois, et j'en ai fait, c'est pas du tout un problème, du jazz, du funk, soul, parce que j'ai la voix pour, mais quand je vais sur une prod, sur une instru, c'est toujours un peu un challenge de savoir quoi en faire, parce que bon, je suis pas Angèle, je suis pas je sais pas Alpha One, enfin j'ai pas l'impression en tout cas d'avoir une voix passe-partout, et donc j'essaie d'en faire ce que je peux, mais effectivement je crois que c'est un peu un pot-pourri de plein d'influences, et en vrai j'en suis très très fier et content de me dire que malgré moi j'innove, que j'ai pas le choix d'innover en fait, parce que je sais pas faire autre chose, quoi.
Est-ce que c'est important de coller une étiquette à ta musique, enfin de définir ce genre, parce que tu dis que tu peines à la définir?
Je sais pas si c'est important pour je sais pas si c'est important pour moi,
ouais.
Finalement, mais ça l'est peut-être pour les gens qui écoutent, les gens qui voilà, on classifie la musique, tu vas sur YouTube, sur Spotify, tu peux chercher par genre. Et c'est vrai que si on ne sait pas trop où mettre, ben, on ne va peut-être pas mettre, c'est un peu ça le souci. Mais je pense, du moins j'espère un jour juste réussir à m'imposer comme H. Callisto, et H. Callisto qui fait du H. Callisto et qui, j'aime bien dire, navigue entre les codes, entre les univers justement, de la soul, du hip-hop, du jazz. Et je me pose jamais réellement, quoi. Enfin, c'est pas un style prédéfini.
Bon, on va écouter ton titre « Il était une fois », qui illustre très bien tout ce qu'on vient de dire, je trouve.
Il était une fois le soleil, il était une fois la lune. L'histoire comporte peut-être quelques lacunes. Le temps efface l'encre de Chine, et parmi ces quelques lignes, certaines ne sont plus tant lisibles, d'autres racontent des choses inadmissibles. Mais libre est l'interprétation, un guide, un journal de bord comme une mission à remplir afin de sortir de prison. Alors écris l'histoire, plus qu'une nécessité, un devoir. À tous les fâcheux, j'ai dit bye bye. Tourne la page et au revoir. Le récit est de ta vie le miroir. Le dénouement n'est pas si dur à prévoir. Alors écris l'histoire. Oui, sois l'auteur de ton propre espoir. Il était une fois le soleil, il était une fois la lune, il était une fois les astres. Et sur cette planète, quel désastre! Une humanité robotisée, quel oxymore! Mise à jour de l'âme sur le cloud comme métaphore. Une litote pour soulager nos maux et nos torts. Mais dites-moi que vaut la vie si on la met à mort. Alors écris l'histoire, plus qu'une nécessité, un devoir. À tous les fâcheux je dis bye bye. Tourne la page et au revoir. Le récit est de ta vie le miroir. Le dénouement n'était pas si dur à prévoir. Alors écris l'histoire. Et sois l'auteur de ton propre espoir. Sois l'auteur de ton propre espoir. Plus qu'une nécessité, un devoir. Le récit est de ta vie le miroir. Bye bye, tourne la page et au revoir. Il était une fois mon père. Il était une fois voyage outre-mer. Il était une fois une enfance austère. Il était une fois ma mère. Il était une fois la naissance d'un roi. Dans un royaume de misère, une terre sans loi, peuplée de personnes sans foi. Il était une fois, pas le choix, né ni Goebbels ou chinois. Il était une fois la terre, la mer, la guerre et le froid. Il était une fois toi et moi, deux cœurs sans père. Mais l'histoire bien des fois se termine sans toi ni moi.
Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a inspiré l'écriture de ce texte, S'il était une fois?
Ce texte, il date il y a un peu plus d'une année, là. Et c'était une période un peu dure. Il y avait... je travaillais plus trop. Enfin, j'étais en arrêt maladie. C'était un peu le spell dans ma tête. Un peu de la peine à voir le bout du tunnel, on dira. Et je sais pas, ce texte, il m'a un peu... il m'a pas mal accompagné, justement, pendant ce temps-là. Finalement, je pense que je suis la personne qui a le plus écouté cette chanson. Peut-être que tu me diras, c'est normal, t'en es l'artiste, mais je l'ai vraiment écoutée de manière thérapeutique parce qu'elle me rappelait que c'est le début de mon histoire, finalement. Il était une fois, ben voilà, c'est bam, c'est littéraire, c'est vraiment rentrer dans un récit. Et puis, c'est le récit de ma vie. Et puis ce n'est pas forcément un récit facile. Ce n'est pas un récit que tout le monde va apprécier. Ce n'est pas un récit que tout le monde même va vouloir lire. Mais ça n'empêche qu'il est valide et qu'il va continuer de s'écrire. C'est surtout ça qui était important pour moi à ce moment-là, de me dire que, OK, il était une fois telle ou telle chose, tel ou tel événement. Mais il en sera encore mille autres aventures à vivre et à raconter par la suite.
Est-ce que c'est toi qui as composé la prod également?
Alors la prod, c'est pas moi qui l'ai composée. Ça a été, c'est pas moi.
En général, tu composes aussi ou tu fais appel à des beatmakers, des personnes récurrentes avec qui tu as bien collaboré?
Alors pour le coup, avant je collaborais beaucoup, ça. Malheureusement, pas très souvent abouti. Et j'ai décidé, c'était toujours en vue, mais de composer moi-même parce que j'aime pas beaucoup dépendre des gens en général. Et du coup, j'ai décidé. Enfin, voilà, maintenant je compose. Maintenant, j'ai recours à personne ou vraiment que des personnes à qui je fais confiance finalement pour de la prod parce que voilà ça m'évite des soucis et puis ça m'affirme aussi que je suis un artiste finalement. Je me dis ce projet là c'est moi de A à Z qui l'ai réalisé. Pour Il était une fois, je dois avouer que j'étais réticent parce que justement la prod n'était pas mienne. Mais j'aime trop cette production en fait. J'aime trop ce beat. Il est vraiment trop fun. Il a un truc vraiment entraînant, un peu dance, mais toujours un peu hip hop. Et voilà, j'étais obligé de poser dessus quand même.
Et qu'est-ce que c'est ton processus de création alors? Est-ce que tu commences par le texte? Est-ce que tu cherches d'abord des prods? Tu travailles sur un logiciel? Comment ça se passe?
Alors, je travaille sur logiciel. Je commence en général par une prod. Juste un mood comme ça. Je suis pas non plus le meilleur producteur. Donc, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Mais en général, c'est suffisant. Et à partir de là, je vais soit créer un texte, soit aussi aller dans la multitude de textes que j'ai déjà écrits et qui reposent pour l'instant. Mais voilà, c'est plutôt chercher un mot, chercher un univers dans lequel je vais me plonger par la suite. Et après, voilà, c'est l'avoir un peu partout avec moi. Soit, ce qui est assez fréquent finalement, je vais peut-être te faire le texte en une soirée. Après, je vais retoucher par la suite, mais c'est un processus qui est assez rapide si ça vient. Puis si ça ne vient pas, ben alors c'est un peu plus... dans mon quotidien, bam, je vais intégrer ma prod, je vais l'écouter quand je vais taffer, je prends le bus, ok, je mets mes écouteurs, je l'écoute un peu, j'écris quelques phrases. Et puis en général, il y a souvent un déclic, puis tout se met un peu en place et le texte se construit peu à peu, quoi.
Quand est-ce que tu es content du morceau? Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient, on va dire?
Il faut... Bah, il faut un bon texte. Je pense vraiment que ça passe beaucoup par le texte. L'instru, elle fait énormément parce que c'est parce qu'il n'y a pas de texte sans instru en général avec moi, mais je dirais que je suis juste satisfait quand j'ai dit ce que j'avais à dire, d'une certaine manière. Le texte est fini, la chanson est terminée quand. Enfin, terminée. Quand je le sens, en fait, il n'y a pas vraiment de. C'est une sorte d'équilibre. Puis bon, après, ben, il y a tout l'aspect technique derrière, enregistré, mixé, master et tout. Ça, niveau technique, je dois dire, je suis jamais à 100% satisfait. Mais voilà, c'est aussi ma manière de faire. Je suis un peu un flemmard, donc j'apprends qu'à moitié tout ce qui est technique. En fait, je fais le minimum vital. Puis du coup, ça sonne comme ça sonne. Puis au bout d'un moment, je suis satisfait. Je suis un peu satisfait du résultat, puis je me dis que ça suffira.
Ça, c'est pareil, c'est un choix de faire toi-même le mix, le mastering.
Oui et non. C'est un choix parce que j'en ai pas d'autres pour l'instant, en fait. Enfin, d'autres, je pourrais en avoir, mais ils sont un peu plus coûteux, on dira. Finalement, je t'ai dit, je suis pas. J'aime beaucoup collaborer. Et en même temps, je bloque pas mal. Enfin, ça m'arrive de bloquer simplement parce qu'il y a des deadlines, il y a des machins, il y a de la pression. Et du coup, enfin, voilà, faire les choses moi-même, ça requiert que moi et ça requiert que mon propre horaire, on va dire, pour que ça fonctionne. Puis bon, un jour, peut-être que j'aurai une team artistique, puis qu'on pourra tout faire. De A à Z impeccable, quoi, mais pour l'instant, c'est pas le cas.
C'est quelque chose qui te fait envie ou le statut d'artiste indépendant, c'est quelque chose de pareil, de choisi?
J'aime bien le statut d'indépendant, mais je suis pas contre une équipe. C'est-à-dire que l'idée d'un label, c'est pas. Ça peut être intéressant, peut-être un petit temps, peut-être si ça m'apporte vraiment quelque chose. Mais sinon, j'ai besoin, je crois, d'avoir le dernier mot ou bien de vraiment faire ce que j'ai envie finalement. Je suis quelqu'un qui pousse un peu les concepts assez loin. C'est vrai que j'aime bien pouvoir réaliser moi-même un clip vidéo ou bien réaliser mon propre costume pour une performance. Enfin, j'ai besoin un peu d'être touche à tout comme ça et d'avoir voilà comment dit-on d'être de gérer le concept, voilà.
Et tu as déjà eu des opportunités pour signer avec un label ou être, je sais pas, peut-être un booker ou...
Écoute, j'ai eu deux opportunités et ces deux opportunités m'ont un peu dégoûté de cette idée-là.
D'accord. Tu peux raconter un peu?
Je peux raconter un petit peu, un petit peu, mais pas trop. Si,
Vas-y, alors, dis ce que tu peux dire.
non, mais écoute, bah, étant plus jeune, j'ai participé à un concours de musique et j'ai terminé sur le podium. J'étais pas premier, mais j'étais quand même très fier. Et une des personnes du jury, du coup, m'a proposé un peu de me prendre sous son aile et par la suite, voilà, de signer dans son label. Et la collaboration s'est mal passée parce que finalement, elle allait que dans un sens. Enfin, c'était. Ben, moi, j'en voulais énormément, finalement, même si j'étais jeune. Et derrière, on n'investissait pas autant en moi que je l'aurais souhaité, voire même on n'investissait rien du tout. Et ça s'est un peu terminé en arnaque à devoir débourser des sous pour des projets qui finalement n'en valaient pas la peine. Et puis voilà, sinon c'est. Je sais pas si ça te dit quelque chose d'Anitsa, qui est une
Si,
artiste.
bien sûr, oui.
Qui est une artiste de Paris 6, justement, qui a une chanson qui s'appelle Mr. Business.
Ouais.
Et ça résume bien un peu ce genre de situation dans lesquelles on peut se trouver justement quand on parle de label ou bien de gens dans le monde du management de la musique, finalement. C'est un business et c'est un lieu avec plein de sharks, en fait. Ouais. Il faut faire attention.
Est-ce que tu penses que le fait que tu sois aussi inclassable peut te desservir par rapport à l'industrie musicale?
Je pense, ouais. J'ai pas trop envie non plus de conformer. Et donc, en fait, il faut... Enfin, voilà, si je tombe un jour sur quelqu'un qui est motivé vraiment à m'avoir dans son label ou à me manage, enfin, faudra vraiment que cette personne comprenne ma vibe et qu'elle la suive et qu'elle me fasse confiance et qu'elle valide, en fait. Je suis pas du tout contre des conseils et puis de la remise en question, c'est quelque chose que je fais constamment finalement, mais juste pas qu'on vienne m'imposer des trucs ou qu'on veut que je change ou bien qu'on me compare à tel ou tel, parce que finalement je suis pas tel ou tel. J'ai besoin de faire ce que j'ai envie.
Justement, tu avais envie de parler un peu de ces thématiques-là aujourd'hui, puisque le premier thème dont tu avais choisi de parler, c'est « Noir et queer, quelle culture, quelle identité ?» Et j'ai l'impression que c'est assez lié à ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur ta musique plurielle, finalement, qui se retrouve aussi là-dedans.
C'est vrai, ouais. J'ai une culture... Moi-même, je suis métisse. Donc de père africain, de mère européenne, élevé par ma mère, donc j'ai quand même plus connu ce côté occidental. Malgré tout, sur mon visage, c'est clair et net que je viens pas foncièrement de Cossonneville, tu vois, mais j'ai quand même j'ai quand même plein d'influences différentes. Et puis quand on vient rajouter encore ce facteur queer finalement à ça, je fasse beaucoup, en fait. J'ai beaucoup de peine à me situer moi-même en tant que personne dans ce monde, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui est l'autre, qu'est-ce que vraiment je vais pouvoir faire sur cette planète. Et je pense que ma musique le reflète pas mal, parce que voilà, j'ai toujours mille idées, et puis ces mille idées, elles sont influencées par mon background de villageois, d'avoir grandi dans un village où il y a 2000 habitants, et en même temps d'être un des seuls noirs là-bas, et puis puis d'avoir une mère finalement qui est blanche, et puis ensuite d'assumer ma sexualité, et puis ensuite de découvrir mon genre, et c'est tout un labyrinthe, un espèce de puzzle cérébral comme ça avec lequel il faut se démerder.
Tu as l'impression que ce labyrinthe, comme tu dis, est toujours continue toujours, c'est une quête qui se poursuit, ou c'est quelque chose qui est déjà arrêté?
Pour moi, c'est quelque chose qui se poursuit. J'ai encore pas mal de travail à faire, je pense, sur ma personne en général. Et ouais, c'est quelque chose qui s'arrête, enfin, qui, je pense, ne s'arrête jamais. Mais on peut être plus ou moins confortable dans sa condition d'être humain, à mon avis. Mais là, ouais, à l'heure actuelle, j'ai encore beaucoup d'apprentissage à faire sur qui je suis et sur d'où je viens et sur ce que je veux finalement.
Donc, qu'est-ce qui signifie le terme queer pour toi?
Pour moi, il signifie l'étrange finalement. Enfin, je vais reprendre un peu la définition. Le bizarre, l'étrange. Qui est la définition, enfin la traduction de l'anglais, parce que on parle pas forcément d'une sexualité, on parle pas forcément d'un genre, on parle juste d'autrui, on parle de l'autre, on parle de celui qui n'est pas dans la norme, celui ou celle qui n'est pas dans la norme. Et c'est cette interprétation-là que moi je trouve juste géniale parce que elle ne met pas de limite. Elle définit rien à part le fait que ben on n'est pas normaux, on n'est pas dans la norme. Donc on peut être ce qu'on veut. Et c'est ce que je trouve absolument incroyable avec ce terme et ce qui me plaît énormément.
Pour illustrer ça, on va écouter le troisième morceau que tu as choisi de diffuser qui s'appelle Cometa.
Perdu dans l'espace, une comète passe, laisse quelques traces, que le temps efface. Ahora sí que me da para mi lengua. Espera antes de comerme o te quemas la lengua. Yo soy un cometa, prométame que te vas a luchar. Cometa, promesa de un futuro tan puro, un futuro de paz. Dérive dans l'espace, quemando plena de grâce. De fuego te queman, te ven en el cielo, a ti te
perdu dans l'espace, une comète passe, laisse quelques traces, que le temps efface.
Non. Hola, yo soy cometa, buscando planeta, pa' que me meta, que juntas tengamos una meta. Yo no tengo teta, pero sí que son mujeres las que me salvaron la vida. Cometa con teta, sin teta, cometa bonita, maldita, prometo que el destino vale la pena. De fuego te queman, te ven en el cielo, a ti te retan.
Perdu dans l'espace, il comete passe, laisse quelques traces.
Oui, finalement, Cometa, c'est un peu l'ovni que tu décrivais juste avant, non?
C'est vrai, c'est vrai. Cette chanson, elle m'est venue il y a quelque temps d'une espèce de vécu. Enfin, non, c'est pas mon vécu en fait. C'est pas venu de mon vécu. Je me suis inspiré d'autres choses. Mais elle vient tout à fait de la queerness. Et de cette ben en fait cometa finalement qui passe dans le ciel, cette comète qui passe dans le ciel que tout le monde admire, que personne comprend, que certaines vont présager des augures dedans ou bien dire que c'est mystique, enfin, et je pense que qu'une personne queer elle peut être représentée, pardon, par cette comète. Puisqu'on inspire souvent, quand ce soit sur les réseaux ou bien quand on se balade dans la rue, on peut inspirer une certaine. On est une espèce de comète en fait. Les gens nous regardent parce que, comme si on ne devait pas être là, comme si s'ils s'approchent de nous, est-ce qu'ils vont commencer à brûler? Est-ce qu'on est une espèce de déité qu'on devrait plutôt worship ou, enfin, tu vois où je veux en venir. Et voilà, ce son, il m'est venu en fait en basant sur le vécu d'une amie trans qui vit en Espagne et qui est une amie très, très chère à mes yeux et qui a un vécu assez particulier. Et je sais pas, j'étais chez moi et j'étais posé et j'avais cette prod et tout à coup, j'étais un peu dans mes sentiments comme ça. J'avais envie de raconter elle, quoi, de parler d'elle.
C'est pour ça qu'il y a des passages en espagnol dans le morceau ?
Exact, ouais.
C'est quoi ton rapport à la langue espagnole ? Est-ce que tu es bilingue de naissance ?
Alors, pas tout à fait de naissance, mais c'est une langue qui était en moi, je pense, depuis très longtemps. Depuis que je suis né, chaque année, je me suis retrouvé en Espagne puisque mes grands-parents y vivaient. Et j'ai une très bonne capacité pour les langues en général, ce qui fait que je suis parti je t'ai dit, j'ai vécu en Espagne pendant une année et demie. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment appris la langue, mais plutôt réappris, parce que c'est comme si je le parlais déjà, en fait. J'ai juste appris un peu plus de vocabulaire, mais en vrai, je suis considéré comme bilingue là-bas et je me considère comme bilingue.
Et tu écris beaucoup de textes en espagnol ?
Quand ça vient, quand j'en ai envie. C'est pas intuitif, mais... Je te dirais qu'écrire en français, ce n'était pas intuitif non plus au début. Les premiers textes que j'ai écrits étaient en anglais parce que voilà, c'est la langue la plus simple, je crois, pour faire de la musique en général. Enfin, elle a des consonances assez agréables. Et puis, j'ai décidé d'écrire en français parce que c'était la manière où je pouvais raconter le plus de choses. Et quand je vais écrire en anglais, en fait, je raconte d'autres choses. Ce sera un mood qui est différent, et même chose en espagnol, en fait. Quand j'écris en espagnol, j'ai pas l'impression de parler de la même manière ou de raconter de la même manière que si je le faisais en français.
Qu'est-ce qui est différent?
Les subtilités du langage sont pas les mêmes, donc on a la possibilité de jouer d'une manière qui est différente, je pense, quand on prend un texte anglais, enfin, je vais garder ces trois comparaisons, je pense, qui sont assez bonnes, puisqu'on a beaucoup de musique anglaise, française et espagnole dans le monde. Quand on a ces textes en anglais, finalement, on peut... J'ai l'impression avec l'anglais, tout est permis, finalement. Tu peux dire juste un mot, et puis, bam, c'est un mood, et tu comprends. Et l'artiste n'a pas besoin de s'étoffer. Quand on parle en français, quand on écrit en français... Il y a toute une syntaxe, une grammaire, un champ lexical peut-être à respecter, enfin des rimes aussi, parce que faire rimer en français, c'est pas toujours simple comparé à l'anglais. Et ça demande du coup, ça demande justement qu'on étoffe beaucoup plus, j'ai l'impression, qu'on construise de manière différente. Puis on peut pas chanter la même chose quand on chante en anglais, quand on chante en français. On est obligé... On est obligé de se tenir à cette langue-là. Et l'espagnol, ben, même chose. On a un jeu avec le langage et aussi une facilité dans la rime, peut-être. Parce que bon, tout finit en O, tout finit en A. En général, c'est aussi plus simple comme ça. Mais du coup, on peut, comme on a cette facilité-là, on peut jouer avec d'autres choses, peut-être plus de métaphores ou bien plus de comparaisons un peu extraordinaires ou enfin c'est peut-être voilà c'est vraiment la subtilité du langage, je pense, qui fait la différence.
Est-ce que tu écoutes aussi beaucoup de rap latino ou hispanophone en général?
Ouais, franchement, pas mal. J'avoue que c'est quelque chose que j'écoute beaucoup, finalement, plus que le rap français.
D'accord.
De rap latino, rap espagnol et de rap américain en général ou londonien.
La deuxième thématique que tu voulais aborder, c'est l'homophobie dans le rap, qui fait un lien direct avec ce qu'on a dit avant sur ta double culture et ton multilinguisme, on va dire. Je ne sais pas si tu as déjà directement, toi, été victime d'homophobie au sein du milieu rap, en soi.
Pas directement, pas dans le, disons, pas dans un contexte où je donnais un concert, où c'était pas... Alors, en général, si je donne un concert quelque part, on a quand même un minimum de respect pour l'artiste, puis ouais. On va pas aller l'agresser par la suite. Mais après, l'homophobie, elle est quand même bien présente dans les textes, finalement, parce que c'est pas... j'écoute de la musique, donc quand j'écoute... je parlais d'Alpha One avant, en fait. Il y a des textes, en fait, qui démontre une véritable haine pour les personnes homosexuelles, pour les personnes queer, pour les personnes LGBT, je peux pas dire sans raison, hein, on a toujours nos raisons, mais c'est à mes yeux quelque chose de très bas. On a un milieu, le milieu hip-hop, qui est un milieu qui lui-même est marginal, du moins à l'origine, à l'heure actuelle, moi. Et on en vient à critiquer d'autres minorités, à les rabaisser. Est-ce que c'est pour soi-même se faire sentir mieux? J'en sais rien, mais je trouve twisté, enfin un peu dérangé de pouvoir être une victime et en fait de se retourner en oppresseur tout à coup. Ça me paraît dingue, alors que merde, on a, enfin, quand on est dans le milieu hip-hop, on pense à un milieu défavorisé, à des gens qui ont un certain vécu, ça devrait leur permettre de s'ouvrir au reste du monde, justement, à d'autres personnes qui vivent aussi des choses assez dures.
Est-ce que tu as l'impression que c'est un simple reflet de la société qui est homophobe dans son ensemble, ou c'est vraiment spécifique au rap?
Le rap, c'est le reflet de la société, c'est le reflet d'une société, en tout cas d'une partie de la société. Donc, il y a de ça. Après, oui, la société en général peut être homophobe, mais je pense pas que le Front National écoute particulièrement beaucoup de hip-hop, tu vois ce que je veux dire, et pourtant c'est pas ceux qui étaient pour le mariage pour tous. On a un milieu... Ah, attends, je me perds, tu m'as demandé...
Non, je t'ai demandé si c'était, d'après toi, plutôt un reflet d'une société qui est homophobe au sens large, ou vraiment le rap serait plus homophobe que d'autres milieux.
Le rap, c'est quand même ça l'est plus maintenant, grâce à nous, grâce à Madame Rap, mais c'était quand même un milieu très masculin. Et masculin et genré et cis-hétéro, j'en passe. Donc, masculinité toxique aussi, peut-être qu'il y a quand même beaucoup d'homophobie dans le rap parce que c'est un milieu particulièrement macho-facho. Voilà. Ouais. C'est ma définition de la toxicité masculine.
Et en même temps, il y a plein de rappeurs gays ou queer aussi. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de figures comme ça, de rôle modèle LGBT+, dans le rap que dans d'autres musiques, surtout des personnes racisées, en fait. Et oui. Du coup, j'ai l'impression que c'est aussi inspirant. Est-ce que tu partages cet avis?
C'est clair. Ben, ça me fait penser à un truc que je trouvais assez intéressant, soit qu'on a justement... Je reviens un peu à noir et queer, mais la culture noire, finalement, qu'on peut voir comme très classique, peut-être, justement, très, très machiste ou bien très, très hétérocentré. Et le milieu queer, qui finalement est un milieu qui a quand même été, on peut dire, fondé par des personnes trans et racisées. que ce soit latino ou noir. Donc on a en fait finalement des personnes racisées qui vont pouvoir s'identifier au hip-hop, mais qui vont aussi qui finalement viennent d'un milieu, enfin les deux milieux originent un peu du même endroit, j'ai envie de dire, sans que pour autant ils divergent complètement, mais à la base c'est quand même, ce sont des personnes noires qui ont lancé un peu ces deux mouvements. Et je trouve ça assez, assez dingue.
Et on a parlé du fait que, donc il y avait de l'homophobie dans le rap, mais je me demandais à l'inverse, comment le fait que toi, tu sois rappeur, était perçu dans la communauté LGBT+, si tu avais accès à ces retours-là?
Pas tout à fait, honnêtement. Mais on ne m'a pas fait de retour particulier sur le fait que je faisais du rap. C'est pas... Je crois pas que c'est quelque chose qui a vraiment choqué les gens. Ça me choque plus, moi, de me dire que je suis un rappeur, alors que il y avait un petit choriste, tu vois, à l'époque. Mais je pense que c'est tout à fait accepté, finalement, parce que, bon, c'est aussi... c'est vrai que c'est un milieu qui est de plus en plus, qui est de plus en plus queer, qui est de plus en plus féminin. Et j'ai énormément d'amis queer qui écoutent la grosse trap. Mais qui est la grosse trappe homophobe.
Et on parlait des rôles modèles, notamment, enfin moi je pense aux États-Unis où il y en a vraiment plein, de Mickey Blanco à Zebra Cats ou aujourd'hui les Lil Nas X. Est-ce qu'il y a des rappeurs gays ou queer en Suisse à connaître, que tu connais ou à nous suggérer si on ne les connaît pas?
Alors écoute, la première personne qui me vient en tête, c'est DB Sounds. C'est vraiment du lourd. C'est une jeune étoile qui monte et qui n'arrête pas de monter là. Qui a une de ses facilités dans le texte, mais qui est bien provoque comme on les aime. Et qui aime mettre les machos fachos en PLS, vraiment. C'est des très bons sons. Genre, un peu, je ne sais pas si tu connais Lapsusseur, qui
oui.
Lui, français, je crois, c'est peut-être moins trash, mais c'est bien provoque comme ça, du DB Sounds.
Ça fait le lien avec le dernier thème que tu voulais aborder, qui est la scène artistique en Suisse. Alors, moi, j'avoue que je connais peu de rappeurs, principalement des rappeuses, donc tu citais tout à l'heure Danitza, mais catégorique, La Gale, Anna Ford, etc. Aussi Loredana, ou, pour les non-francophones. Du coup, à quoi ressemble cette scène? Est-ce qu'elle est... Parce que moi, de l'extérieur, je la trouve... elle me semble assez active.
Elle l'est, parce qu'il n'y a que des gens... Il n'y a que des personnes motivées, en fait, ici, en Suisse. Et j'ai juste envie de rebondir parce que tu dis que tu connais La Gale et ça me fait rire parce que la Suisse c'est un petit pays et en fait c'est une ancienne élève à ma maman.
Oh, ouais. C'est fou, j'avoue.
C'est assez drôle. En Suisse il n'y a que des gens motivés et il y a énormément de talent. Moi j'arrête pas d'être surpris par les perles que je peux rencontrer par ici. Le seul hic, on dira, c'est vraiment la manière dont tout cela est géré par les programmations ou bien par le gouvernement en général. On a très peu d'aide, ou alors les aides qu'on peut avoir, elles sont pas inaccessibles, mais elles sont toujours refilées aux mêmes personnes, ou alors il faut avoir fait conservatoire et puis avoir une formation et puis faire du classique pour prétendre à une bourse. Enfin, c'est très peu démocratisé finalement l'artiste, le chanteur ou la chanteuse suisse. C'est pas quelque chose qu'on admire particulièrement. On a énormément d'artistes français qui viennent, d'artistes étrangers finalement, américains, de Londres, etc. Par contre, on a de la peine à remplir nos salles avec nos propres artistes. Alors qu'il y en a, partout. Enfin, j'en ai une liste comme ça, long comme le bras. Mais le souci, c'est que si tu dis... Si je te dis, écoute ce son, c'est un ami de Madrid qui fait du rap, je sais pas quoi, tu vas vouloir écouter, tu vas me dire waouh, trop lourd, trop bien. Par contre, si je te dis vas-y, c'est un ami qui fait du rap, il vient de Moudon, qui est un bled, t'as pas envie d'y aller, honnêtement. Ben en fait, ici ça passe au-dessus. On se dit ah ouais, ok, et puis t'écoutes à moitié, et puis c'est terrible parce que moi-même j'ai été comme ça il y a pas si longtemps encore, mais on a de la peine, voilà, à se dire qu'il y a des artistes, qu'on est des bons artistes, qu'on va pouvoir amener quelque chose de concret, de solide sur la table. Mais comme on n'a pas, ben voilà, on n'a pas les fonds, on n'a pas les moyens, ben on est obligé de s'expat, d'aller chercher un label, un management en France, en Belgique, parce qu'ici, ce n'est pas qu'il n'y a pas, c'est juste que c'est peu accessible.
C'est fou, est-ce que ce n'est pas lié aussi à la taille des villes? Est-ce que ce n'est pas genre, je ne sais pas, à part Zurich, Genève et Lausanne, il n'y a pas d'autres villes sur la carte? Est-ce que ce n'est pas lié à ça? Parce que j'ai l'impression que ça ressemble à la France aussi, où si ce n'est pas Paris, Marseille, Lille, Bordeaux, j'exagère, hein, mais ce n'est pas les grandes villes, s'il y a des artistes qui viennent aussi de milieux plus ruraux ou plus éloignés, ça n'intéresse personne aussi.
Mais, du coup, là, je ne suis pas convaincu par ça, parce que il y a pas mal d'artistes qui viennent finalement de petits bleds ou bien de cantons comme ça, départements qui sont pas particulièrement notoires. Mais qui, bon, bien évidemment, au bout d'un moment, bah, catégorique, par exemple, est valaisanne. Donc, c'est un très grand canton où il n'y a pas grand-chose à part des montagnes. Enfin, je dis ça, mais les Valaisans diraient qu'il y a plein de choses à faire là-bas. je pense plus que c'est vraiment le manque de cred. Enfin, je vois la programmation ici d'une super salle, les Docks à Lausanne. Je vais m'attirer des foudres. mais je trouve assez dingue de me dire qu'il y a 3 artistes suisses sur toute leur programmation. Et bon, puis je dis ça, en vrai, il y en a certainement plus, hein, mais le prorata me paraît un peu insensé, d'une certaine manière. Parce que s'il y avait des concerts toutes les semaines, bon, ben, ok. Mais pour le peu de concerts qu'on a déjà ici en Suisse, on a en plus une majorité d'artistes étrangers et ça, voilà, ça me sidère un petit peu, quoi.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après toi pour changer ça?
Changer la conscience peut-être des gens, finalement. Je sais pas, juste comprendre que c'est tout bénef de regarder chez soi aussi. Enfin, c'est que l'herbe est plus verte dans le pré d'à côté, mais en fait, il y a des merveilles par ici. Et si on permettait à ces merveilles-là de se développer, on aurait certainement... on aurait certainement beaucoup à donner. En fait, moi, je vois ça avec... Peut-être ça te dit quelque chose, des Dime, Slimka, Makala, ouais. Voilà, eux, ont fait leur place, en fait, dans le rap game francophone. Et cela malgré le fait qu'ils viennent de Genève, et puis finalement les Français, ils sont jamais allés à Genève, enfin pour une grande majorité, et ils savent même pas à quoi ça ressemble, ils savent pas comment les gens y sont, et pourtant il y a de la musique qu'ils écoutent, et en fait il y en aurait aussi à Lausanne, et il y en aurait aussi à Moudon, et il y en aurait aussi dans le Valais, et voilà, c'est plus je sais pas. Juste que les gens, si on investit ici, ben on pourra montrer ça au monde, quoi. Je pense qu'on est le prochain pinpoint sur la carte, comme ça la Suisse elle va se démarquer un jour ou l'autre.
J'ai l'impression que chez les rappeuses, en tout cas quelques-unes que je t'ai citées, elles se connaissent un peu toutes entre elles, ou elles collaborent parfois. Est-ce que c'est le cas aussi chez les rappeurs?
Ben écoute, oui, quand même. Après, on n'est pas une pété de rappeurs queer, pour le coup. Mais dans les rappeurs de par ici que je connais, oui, il y a quand même de la collaboration, il y a des collectifs, je pense au collectif de la Nébuleuse, par exemple, qui sont du coup plusieurs artistes qui rappent ensemble, qui font de la musique ensemble. Et ça, bah ça amène quelque chose, c'est clair, ça amène quelque chose. Mais de nouveau, on tourne un petit peu à vide si on n'est pas soutenu, si on n'est pas pris en considération avant, quoi.
Et toi, est-ce que aujourd'hui tu arrives à vivre du rap?
Wouh! Cool. Ce serait cool, malheureusement pas, non.
Et c'est un objectif?
C'est clairement un objectif, ouais. On va se donner les moyens, écoute. c'est pas encore le cas, mais bon, comme je disais plus tôt, ça fait depuis 2018 que H. Callisto est né, et finalement j'ai encore l'impression d'être j'ai à peine l'impression d'avoir démarré, tu vois. et malgré ça, il y a quand même de la reconnaissance, il y a quand même des dates, tu vois. Enfin, je vois mon propre potentiel, donc je vais pousser en fait jusqu'à ce que c'est bon, on fasse tête d'affiche.
Qu'est-ce qui te manque concrètement pour réussir à vivre de ta musique?
La moula. Parce que l'argent génère l'argent, finalement. C'est bête, mais j'ai mille et une idées, mais je peux difficilement les mener à bout parce que il faut des fonds, et puis il faut de l'aide. Enfin, je suis pas du tout le genre d'artiste qui aime les services gratuits, on va dire. C'est-à-dire que les gens avec qui je travaille, je me sens obligé de les payer parce que c'est du taf, et parce que c'est ce que, enfin, je veux dire, peu importe le niveau, même moi-même je fais presque du professionnel au niveau de la musique. Ben, j'ai des amis qui font ça aussi dans la vidéo ou bien dans d'autres domaines. Finalement, comme moi, je mérite un cachet quand je vais faire un concert, ben, ces personnes-là méritent un cachet quand je taffe avec.
Ouais.
Mais ça fait que, voilà, ça coûte vite cher. Et du coup, ben, ce n'est pas tout le temps réalisable.
Est-ce que tu as des projets malgré tout, malgré ces difficultés financières et la période de Covid qui est quand même très particulière?
Alors écoute, oui, il y a un projet là qui va bientôt sortir. Il faut que je commence un peu à organiser ma promo, mais je peux déjà en parler ici. Peut-être même ce sera sorti d'ici là, sait-on jamais. C'est un clip pour ma chanson « Pluie d'étoiles » qui a été réalisé par une très grande copine à moi qui s'appelle Alicia Mendy, qui est justement dans le cinéma et puis qui est absolument super. Et ça devrait sortir en premier lieu. Et par la suite, justement, j'ai ce projet, cet EP, en fait, de 4 chansons qui s'appelle Projection Astrale, qui est en peaufinage.
Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finir?
La moula. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Écoute, du courage et de l'assurance, je pense, parce que c'est un peu ce qui a tendance à me manquer finalement, puisque voilà, comme je disais, j'ai de la peine à trouver ma place parfois, que ce soit juste dans le monde ou bien dans le milieu de la musique, parce que je fais pas ce que tout le monde fait, et c'est dur un peu de passer au-delà de sa propre critique et puis de ce que vont de ce qu'on pense que les gens vont penser, et de se dire ah mais ça en fait c'est pas normal, enfin un autre rappeur il ferait pas comme ça ou machin, enfin c'est un peu ça. Et finalement ce que je me souhaite en tout cas c'est de surmonter ces pensées là parce que il faut que je reste authentique à ce que je suis et à ce que je fais.
Bah, on te souhaite tout ça.
Merci.
Merci beaucoup en tout cas, et puis on va suivre tes projets de près.
Ben merci à toi en tout cas, Je te souhaite tout de bon également et puis à une prochaine, peut-être.
Merci, ciao.
Ciao, ciao.